Et vous?
Ça va.
Oui, donc,
Bien.
vous êtes au
Alors.
courant, c'est bon?
Oui, merci.
Donc, vous êtes directeur du festival, c'est bien ça?
Oui, bien sûr.
Alors, déjà,
C'est tout à fait ça.
est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs qu'est-ce que Nancyphonie?
Donc, Nancyphonie, c'est un festival qui se tient en général sur le mois de juillet et le mois d'août. Qui cette année dépassera un peu ses dates, il sera du 30 juin au 2 septembre, basé principalement sur le répertoire de musique classique, mais pas seulement, puisqu'on a des incartades vers le jazz et musique du monde, et donc qui regroupe en général 30 à 35 concerts. Cette année, il y en a 31, dont une majorité est gratuite. Donc, une majorité est gratuite, ce qui permet évidemment d'aller goûter la musique classique sans contrainte.
Et vous êtes seul à organiser ce festival ou vous faites ça avec une association ou un organisme
Alors, c'est
particulier?
une association qui organise ça depuis presque 30 ans. Nous allons fêter bientôt les 30 ans d'organisation. Et c'est une grosse opération puisque, pour dire les choses très clairement, nous sommes sur un équivalent temps plein de 7 personnes à l'année. Donc, il ne s'agit pas d'une petite structure. Après, nous avons commencé de manière relativement artisanale et familiale, et puis petit à petit, au fil des 30 ans, les choses se sont professionnalisées, et maintenant, pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes un acteur de formation au secteur culturel, et nous formons des gestionnaires de structures culturelles. Donc, c'est une progression c'est fait depuis 30 ans et qui nous permet d'accueillir les artistes dans les meilleures conditions et en respect, évidemment, du public et de la législation.
Et donc, c'est la 16e édition cette année, c'est bien ça?
Alors, c'est la 16e édition du festival sous le nom d'Ancyphonie, mais avant, il existait déjà, ça s'appelait les Rencontres musicales en Lorraine. Et puis, en 2003, nous avons décidé de changer le nom pour lui donner plus d'identité. Et donc, c'est la 16e édition sous ce terme Nancyphonie.
Et donc, comment est née Nancyphonie? Alors, sur la base de quelle initiative? C'est vous qui avez impulsé cette idée?
Voilà, donc j'avais 20 ans, j'étais élève au Conservatoire supérieur de musique de Paris et j'avais fait plusieurs stages d'été, donc où j'allais retrouver des professeurs de haut niveau. Poursuivre l'enseignement et me perfectionner. Et donc, j'ai eu l'idée de créer mon propre stage puisque j'étais déjà professeur. Donc, j'ai fait ça. C'était dans les Ardennes au départ. On n'était pas tout fait en Lorraine. On était déjà dans le Grand Est. Et donc, c'était avec ma petite amie à l'époque. Elle était violoniste et on avait quelques élèves comme ça dans une très belle abbaye. Et puis, petit à petit, ça a eu beaucoup de succès. On a eu de plus en plus d'élèves. La première année, je crois qu'on en avait 6 ou 7. Je ne me souviens plus. Et puis après, on est monté à 15, 30, 50, 100. Et puis maintenant, c'est en centaines. On a les élèves qu'on forme. On organise des académies sur Paris et sur Nancy. Et donc, de cette activité d'enseignement, il paraissait naturel de faire jouer les professeurs qui étaient tous des concertistes. Et le festival est né en fait des professeurs qui venaient enseigner dans ces académies, ces stages d'été. Et désormais, bon, le festival et les académies existent toujours. Elles s'appellent les Académies du Grand Nancy. Mais même si elles se déroulent en même temps que le festival, une partie du festival, disons qu'elles, les deux événements sont devenus indépendants. Donc il y a des artistes qui viennent seulement pour jouer. Et d'autres artistes qui viennent pour enseigner, et donc mais il reste quand même des passerelles entre les deux, entre les Nancyphonies et les Académies du Grand Nancy.
Vous êtes vous-même musicien alors?
Alors moi, je suis pianiste, pianiste concertiste. Voilà, je fais environ 50 concerts par an, et puis donc j'enseigne le piano et je suis aussi organisateur, comme beaucoup de mes collègues musiciens, puisque en général, quand on est musicien, on a en règle générale ces trois activités simultanément.
Et vous jouez essentiellement de la musique classique?
Alors, moi, je joue principalement du piano classique. Après, je joue du répertoire de jazz, puisque j'écoute énormément de jazz. Je ne me considère pas comme un jazzman, mais à partir du moment où les choses sont un peu écrites et que j'ai le temps de travailler, j'arrive à jouer des répertoires. J'ai notamment un très beau spectacle qui s'appelle Broadway Nights, que je fais avec une chanteuse qui chante des airs de comédie musicale américaine. Et je m'amuse beaucoup à faire ça. J'ai fait des arrangements, en général c'est pour grand orchestre, donc j'ai fait des arrangements pour le piano. Et j'ai beaucoup de plaisir à jouer ces belles musiques qui sont globalement inspirées du jazz. Donc voilà, et puis j'improvise beaucoup aussi, j'aime ça. Et je joue notamment avec Jean-François Zigel, que vous devez connaître puisqu'il est chroniqueur, excellent pianiste, improvisateur et chroniqueur sur France Inter et à la télévision, avec l'émission La Boîte à Musique. Et donc, là, nous revenons d'une grande tournée en Chine. Nous avons joué, j'ai joué du Debussy, on a improvisé sur de Debussy. Et voilà, donc j'aime bien inventer la musique en temps réel. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit.
Et pour le festival, vous disiez c'est de la musique classique, mais pas seulement, aussi du jazz et des musiques du monde. Mais est-ce qu'il y a une prédominance de musique classique ou est-ce que c'est vraiment
Oui.
éclectique?
Non, surtout cette année, il y a une identité qui est autour de la musique classique. Au même titre que, par exemple, NJP, il y a une identité autour du jazz, évidemment. Donc, on tient à garder cette identité. C'est une grande majorité de musique classique, surtout cette année. Même si, dans la musique classique, on a des traces de jazz, et de musique du monde. Par exemple, le fil rouge de cette année, c'est l'œuvre de Claude Debussy, qui va être présent dans plusieurs concerts, sachant qu'on fête les 100 ans de sa mort. Il est mort le 25 mars 1918, et dans la musique de Claude Debussy il y a beaucoup d'influences de jazz, donc on retrouve aussi même dans le répertoire classique d'autres types de musique. Voilà, mais bon, ça dépend des années. Il y a des années où on a un peu plus de variété. Cette année, en raison justement de cet anniversaire de Claude Debussy, il y a vraiment beaucoup de répertoires classiques. Mais voilà, c'est notre identité et le public adore ça. Donc on a beaucoup de plaisir à rester aussi dans notre terre de prédilection initiale. Voilà.
Et vous dites cette année, le fil conducteur, c'est l'œuvre de Debussy. Donc, est-ce qu'il y a un thème chaque année qui est choisi comme ça?
Pas forcément. Il y a deux types de festivals dans le monde. Il y a des festivals qui sont vraiment monographiques. Par exemple, le festival dans lequel j'ai joué, Chopin, chez George Sand, donc qui se passe à Nohant, là où George Sand et Chopin ont vécu. Bon, voilà, bah on fait du Chopin. C'est comme ça. Il y a le festival Souchamp Mozart, qui est donc près de Montélimar, où là, on joue du Mozart, où vraiment de temps en temps quelques compositeurs, mais très proches de Mozart. Moi, j'ai choisi dès le départ d'avoir un festival beaucoup plus éclectique qui me permet d'avoir toutes sortes d'influences. Et puis, le festival est important puisque 31 concerts, ça veut dire beaucoup de scènes et beaucoup de temps sur scène. Donc, être monographique sur une thématique n'est pas forcément simple et pourrait aussi déplaire à une partie du public. Donc, moi, je trouve bien que ce soit varié. Et en général, il y a un fil conducteur, et ce fil conducteur n'est pas exclusif et nous permet d'avoir une sorte de direction, mais sans bloquer tout sur le fil conducteur.
Et pourquoi avoir choisi la musique classique? Alors, c'est parce que c'est un domaine qui vous tient à cœur ou c'est pour une autre raison?
Bah, déjà, c'est mon métier, c'est ma spécialité, c'est la première chose. Moi, j'ai toujours vibré pour la musique classique. Il s'avère que j'étais parti pour faire des études d'ingénieur. J'étais au lycée Louis-Grand, j'étais en classe préparatoire des grandes écoles, et puis j'ai choisi de présenter le conservatoire parce que c'était ma passion. Donc, ce n'est pas un choix raisonné, c'est un choix passionnel au départ. Et puis, bon, c'est ce qui me fait vibrer. Je trouve que la musique classique est absolument géniale, magnifique. Elle nous parle, elle est universelle. Là, on était en Chine, on a eu des salles de 1500 personnes avec plein de jeunes. J'ai donné des cours à de jeunes Chinois exceptionnels. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver dans presque tous les pays du monde. Et la fascination de la musique classique, elle est vraiment universelle, elle ne passe pas par les mots. On n'a pas besoin de spécialement d'initiation pour être ébloui, en tout cas pour la plupart des musiques. Alors après, ce n'est pas du tout contre d'autres musiques, puisque moi j'en écoute beaucoup. Je n'écoute pas que de la musique classique. Et d'ailleurs, mon quotidien, c'est plutôt d'écouter du jazz, parce que j'adore ça. Donc voilà. Après, non, ma compétence aussi, c'est en musique classique, puisque je serais bien incapable d'organiser un festival de jazz. J'estime que je ne suis pas assez compétent. Je suis juste un mélomane de jazz et pas un spécialiste comme je le suis en musique classique.
Et est-ce qu'il y a aussi peut-être une volonté de rendre accès, parce que tous les concerts ne seront pas payants, est-ce qu'il y a une volonté derrière peut-être de rendre accessible la musique classique au grand public? Parce que c'est vrai que derrière la notion de musique classique, il y a souvent cette idée de public un peu élitiste qui s'y connaît.
Oui, alors, bon, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Déjà, c'est un peu une invention médiatique, cette idée d'élitisme. Parce que moi, pour pratiquer les conservatoires qu'il y a en France, les conservatoires qui enseignent la musique classique sont placés dans toutes les zones de France, et pas seulement dans le 16e arrondissement à Paris. Il y en a aussi dans les zones entre guillemets populaires. Déjà, je sais pas qui a décrété que c'était de la musique de riche, hein, pour résumer, c'est faux. Alors après, qu'on ait des lieux où les gens vont habiller comme à un mariage, c'est une réalité aussi. Mais vous avez ça aussi au théâtre, vous avez ça dans d'autres lieux. Donc voilà. Alors la deuxième chose, c'est que le français et en général aussi les Européens écoutent énormément de musique, mais souvent ils se placent dans un certain style. Par exemple, si on prend le hard rock ou le heavy metal, vous allez avoir une sorte de spécialisation dans votre écoute. Et donc, quand vous allez dans un concert de heavy metal, ça m'est arrivé, vous vous retrouvez avec un public quand même très très spécialisé, qui a ses codes, qui a ses codes vestimentaires, qui danse d'une certaine manière, voilà. C'est pareil pour le jazz. Les amateurs de jazz sont pas forcément des amateurs d'art lyrique ou de musique classique, et n'écoutent pas non plus forcément de la comédie musicale, par exemple américaine. Donc, il y a une forme de spécialisation chez les mélomanes, hein, ceux qui écoutent de la musique, et on la retrouve aussi partiellement en musique classique. Alors bon, après, si on regarde les choses très très objectivement, la musique classique, elle est absolument partout. Elle est dans les films, elle est à la télévision, elle est dans les publicités, elle est à la radio, elle est dans les magasins. Donc, les gens en écoutent déjà naturellement. Après, on se pose la question du phénomène d'aller au concert. Alors là, vous avez raison, il y a quelques codes qui peut-être font peur à certains, et c'est tout à fait pour ça que j'ai décidé d'organiser, par exemple, des concerts au kiosque de la pépinière, qui sont gratuits, puisque on vient se promener à la pépinière, on entend de la musique, on se rapproche, on s'assoit ou on ne s'assoit pas, on peut rester dans l'herbe, on peut rester debout, et on profite du concert et on se rend compte que ces codes qu'on aurait imaginés, par exemple comme comment je peux aller salle Poirel, comment je dois m'habiller, comment je vais prendre les billets, comment je dois me comporter pendant le concert. Et on se rend compte que tout ça est simple et très très universel. Donc, ça fait tomber un certain nombre d'a priori ou peut-être de fausses croyances. Et c'est pour ça, comme vous le dites très bien, que j'ai choisi de faire ce nombre de concerts gratuits aussi.
Et pour cette édition 2018, alors il y aura combien d'artistes à découvrir?
Alors, c'est une bonne question. Donc, moi, j'ai toujours tenu à ce que il y ait un accès pour les jeunes artistes à la scène. Donc, on a toute une progressivité dans notre organisation. On a au kiosque de la Pépinière un certain nombre de concerts réservés de jeunes artistes qui sont encore en études, qui ont déjà un magnifique niveau, mais qui sont encore étudiants. Donc, ils peuvent se produire, s'aguerrir déjà à la scène. Ils ont déjà l'habitude, mais ça fait des expériences en plus. Après, nous avons de jeunes artistes professionnels que je produis dans le festival, et donc qui vont se retrouver avec plus de responsabilités. Par exemple, le concert d'ouverture qui aura lieu samedi, le 30 juin, et celui du 1er juillet, ce sont deux jeunes professionnels qui sont en début de carrière et qui vont faire un récital entier. Donc ça veut dire une heure seule sur scène, avec le piano et face au public. Donc ça, c'est une seconde étape, on va dire, dans la construction d'une carrière professionnelle. Et puis après, bah, évidemment, il y a toute la gradation des artistes. Quand on a 30 ans ou 35 ans, on a déjà de l'expérience, mais moins que quand on en a 60. Donc j'essaye de trouver un équilibre entre les générations pour qu'on ait aussi une affiche variée et qui montre les degrés de progression de cet art qu'est la musique. On peut considérer qu'un musicien, c'est comme un bon vin. Au départ, il est plus ou moins bon. C'est sûr que si on prend un grand Bordeaux, le vin, même quand il est jeune, est déjà exceptionnel, mais il va se bonifier avec l'âge. Mais c'est un peu pareil pour les musiciens, et surtout les musiciens classiques, je pense. C'est-à-dire qu'on repère tout de suite leur talent et leur capacité, mais s'ils se développent harmonieusement, ils vont devenir de plus en plus intéressants au fur et à mesure où ils gagnent en expérience. Donc c'est pour ça que j'essaye d'avoir cette variété. Alors parmi les tout jeunes, vous aurez Laure Chollet, qui est une jeune pianiste qui a 20 ans, Ryo Sasaki, qui a 22 ans, qui est japonaise, et puis Camille Belin, donc qui est un peu plus âgée, qui a 26 ans, donc qui a déjà plus d'expérience. Après, on monte sur des artistes qui sont encore très jeunes, mais plus âgés quand même. Par exemple, Célimène Daudet, je ne vais pas dire son âge par courtoisie, mais voilà, Ivan Rudin, Leonardo Zumica, qui sont des pianistes en pleine force de l'âge. Et puis après, ben, on a évidemment des gens qui ont plus... Ou Simon Graichi, évidemment, qui va jouer sa poirelle. Et puis après, on a des artistes qui ont plus d'expérience, qui sont un petit peu plus âgés. Mais je laisserai au public les découvrir, parce que là, je vais être discourtois aussi. Je crois que je parle des âges comme ça.
Et ces artistes, c'est vous qui les choisissez et qui faites appel à eux? Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de lancer un appel et que ce soit eux qui viennent vers vous? Comment ça se passe pour la programmation?
Oh, bah, disons que ce sont les deux choses. C'est-à-dire que déjà, je connais beaucoup, depuis 30 ans que j'organise des concerts, je connais presque tous les artistes français et beaucoup d'artistes étrangers. Donc, quand je veux produire quelqu'un ou que j'ai une idée de programme, je sais où trouver les artistes qui m'intéressent. Mais aussi, je réagis aux propositions, puisque je reçois beaucoup de propositions de spectacles et de concerts. Et donc, voilà, bon, après, on reçoit des centaines, voire des milliers de propositions, et je ne peux en retenir que quelques-unes. Donc, c'est toujours quelque chose de très difficile de faire le choix de la programmation. Mais c'est aussi très plaisant. Donc, voilà. Et puis, pour vous donner sur des axes de programmation, moi, j'essaye d'équilibrer entre des valeurs sûres, donc des artistes qui sont reconnus mondialement. Après, il y a aussi, j'aime bien faire venir des artistes qui font un peu le buzz, donc qui sont dans une actualité. Parfois, c'est grâce à la télévision, parfois, c'est parce qu'il y a eu un disque, qui a eu un succès fulgurant. Donc, je trouve important que le public du Grand Est puisse écouter ces artistes sur scène et se faire une idée, savoir si leur succès est mérité ou si, au contraire, ils sont encore plus géniaux qu'ils n'en ont l'air. Et puis aussi, bah, évidemment, un festival doit obligatoirement prévoir un certain nombre de découvertes, puisque si on se contente de faire jouer des artistes très connus, quelque part, on n'apporte pas grand-chose au métier. Et j'estime que mon rôle de directeur de festival, c'est de faire découvrir des jeunes artistes, des artistes moins connus, des répertoires plus bizarres ou plus rares. Et donc, c'est très important d'avoir cet espace de liberté, de découverte. Comme ça, le public à l'habitude aussi, développe une certaine confiance et devient plus curieux. Et c'est une des grandes fiertés par rapport au Nancy Phonies, c'est de pouvoir remplir une salle avec un artiste qui joue pour la première fois en France, par exemple, et qui propose un répertoire un peu particulier. Donc voilà, ça prouve que on n'est pas obligé de faire toujours Mozart avec l'artiste qui est sur France Musique en permanence. On peut aussi faire d'autres découvertes et prendre d'autres paris.
Il y aura des artistes locaux et internationaux, c'est bien ça.
Alors, local, on a des artistes locaux qui sont d'origine lorraine et qui sont de notoriété internationale. Notamment, j'ai plusieurs anciens élèves qui maintenant font des carrières absolument brillantes. Je citerai par exemple Romain Descharmes ou Laurent Duru, qui sont deux Vosgiens qui ont étudié quand j'étais professeur au Conservatoire de Nancy. Et voilà, il y en a plein d'autres. Donc non, des locaux. Moi, j'opposerai pas locaux et local et international. Simplement, bah, pour devenir international, il faut le talent pour et travailler, et puis peut-être un peu de chance aussi. Mais non, ce sont des questions de notoriété. La notoriété, c'est quelque chose d'assez curieux. Comment ça se construit, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, c'est très difficile d'établir des règles. Quelqu'un qui va se produire sur YouTube et qui aura beaucoup de vues peut très bien devenir célèbre en un an. Après, quelqu'un d'autre qui va se construire plus lentement peut devenir célèbre à 50 ans ou à 60 ans. On a vu beaucoup d'exemples dans le répertoire classique d'artistes qui commençaient une véritable carrière mondiale à 60 ans. Et puis, il y en a d'autres qui sont très précoces, qui, dès l'âge de 15 ans, ont déjà une carrière mondiale. Et puis d'autres qui peut-être n'atteindront pas le niveau de la carrière internationale, mais qui sont de très bons musiciens quand même, et sur un projet précis, qui vont donner énormément de plaisir au public. Voilà, donc cette notion de notoriété, elle est devenue très, je dirais pas artificielle, puisque c'est une réalité, mais en tout cas difficile à cerner et difficile à analyser.
Et pour finir, comment vous nous décririez l'état d'esprit qui se dégage de ce festival?
Alors, l'état d'esprit, il est extrêmement détendu, il est très convivial et surtout on vient au Nancy Phonies comme on est, c'est-à-dire que on ne ressent pas du tout la pression qu'il y a peut-être dans certains endroits où on vient avec un code vestimentaire très particulier, où on va faire étalage soit de sa culture, soit de ses revenus. En tout cas, ça n'est pas le cas au Nancy Phonies, donc. On vient parce qu'on aime la musique, on vient parce qu'on aime aussi l'activité culturelle de la région, on vient pour profiter bah, de la musique aussi dans les lieux qui sont dehors, puisque quand il fait beau à la pépinière, c'est absolument magique de pouvoir écouter de la grande musique comme ça, sous les marronniers, à l'ombre, avec un petit vent frais. Mais c'est aussi le cas, par exemple, à Vendeuvre. Ou à Villers, on découvre des lieux, on découvre le patrimoine. Donc non, c'est détendu et je dirais qu'il y a une grande curiosité. Donc, pourvu que ça dure, moi je trouve que c'est un espace de liberté et de citoyenneté magnifique. Et c'est ça qui nous fait tenir cette organisation depuis tellement d'années.
Et où est-ce qu'on peut vous contacter ou vous retrouver?
Alors, il suffit de taper Nancy Phonies, alors comme Nancy, comme la ville, et puis Phonies, Phonies. Notre site, c'est www.nancyphonies.com. Et puis, on nous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, on a un compte Twitter, on a toutes sortes d'outils pour passer l'information par des voies actuelle, et aussi nous avons un certain nombre de dépliants papier, puisque c'est pratique, ça se met dans la poche, ça se met dans un sac, et ça permet d'avoir le programme tout le temps sous la main. Donc, si on regarde un peu autour de soi, on trouve forcément un flyer ou un programme des Nancyphonies autour de soi, dans la ville et dans la communauté, dans la métropole.
Et il y a une billetterie en ligne ou physique ou les deux?
Alors, pour les concerts qui sont payants, donc les 15 concerts payants, il y a une billetterie en ligne qui est accessible sur le site www.nancyphonies.com. C'est très simple, on imprime les billets sur soit son téléphone, soit du papier normal, et ça permet d'accéder aux concerts. Et puis pour les concerts qui sont gratuits, ceux qui sont dans les espaces ouverts, il y a toujours de la place. Ceux qui sont dans les espaces fermés, comme par exemple à Séchamps, à Vendeuvre, dans l'église, ou à Villers, dans l'église, là, c'est dans la limite des places disponibles, donc il faut se méfier. Par exemple, l'année dernière, à Séchamps, il y a plus de 100 personnes qui n'ont pas pu rentrer dans l'église parce qu'on était déjà, on avait atteint la jauge, donc il faut arriver un petit peu tôt. Dans les endroits fermés, quand c'est gratuit, c'est plus sûr. Voilà. Et puis donc, on peut aussi trouver les places soit dans nos bureaux, donc qui se situeront au Conservatoire de Nancy, 1 rue Michel Ney, et on les trouve aussi à l'Office du tourisme de Nancy, place Stanislas.
Mais en tout cas, merci Monsieur Leclerc d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions.
Bah, merci à vous, et puis vous êtes les bienvenus au festival du 30 juin au 2 septembre.